Bien, bon matin. Merci d'être ici ce matin pour notre prochain cours. On est déjà rendu à la 6e discipline sur 11, alors on est à mi-chemin. Donc, ce matin-là, une femme me faisait remarquer, ça n'a pas suivi l'ordre de votre livre, pour ceux qui s'en sont rendus compte. On a sauté, là, on a été à la discipline de l'offrande. Je trouvais qu'elle faisait un meilleur lien avec celui de la générosité de la semaine passée, du contentement plutôt. Pas de la générosité, mais du contentement. Fait qu'on va faire un lien un petit peu entre les deux. Puis après, on retourne là, à l'ordre habituel là, avec la semaine prochaine, la bienséance, le chapitre 8, si je ne me trompe pas. Donc, parfait. Aujourd'hui, on commence avec la discipline de l'offrande. C'est un sujet qu'on a toujours un peu de réticence à aborder en grand public. Là, cette semaine, je me disais, oh, je suis la femme d'un ancien rémunéré. Est-ce que ça vient mettre un petit bémol dans tout ça? Moi, je vais vous partager un peu ce que j'ai lu, ce qui arrive là. C'est en rien relié avec un conflit d'intérêt personnel là, sur les offrandes de l'Église. Mais on l'a vu par la réunion de membres la semaine passée, il y a deux semaines, le budget, comment c'est important, comment c'est réparti. On va l'aborder aujourd'hui, puis j'ai rajouté à la fin un petit exemple très concret là, pour nous aider là, dans notre application quotidienne. Ça sera à chacun de partager là, ce qui vous convient ou pas. Là. Fait que dans la discipline de l'offrande, chaque pays aurait une lecture différente de ce chapitre-là. Nous, au Canada, voire au Québec, on est quand même aisés comparé à d'autres populations. On vit quand même dans un certain confort, puis les besoins qu'on a, des fois, sont relatifs. On a quand même des gens dans une grande pauvreté, l'itinérance, mais comparé à d'autres pays, on a quand même une abondance qui est là. Donc, nous, je dirais qu'on a plus tendance à avoir ces défis-là au niveau de la richesse par moment, parce que justement, on reçoit de l'argent de façon plus régulière, on a des belles allocations familiales pour ceux qui ont des enfants, il y a les rentes, les pensions, donc on a quand même plusieurs choses que le gouvernement a mis en place. Donc, on a certains dangers qui peuvent être cultivés avec la richesse. On peut avoir de plus en plus l'illusion que le monde dans lequel on vit est important, comme nos défis de tous les jours, comme si notre défi de tous les jours est vraiment dans notre quotidien et qu'on doit continuer à avoir des objectifs qui sont terrestres en oubliant nos objectifs qui sont célestes. Fait que des fois, dans notre quotidien, nos objectifs, notre plan de vie, on n'incorpore pas toujours des objectifs qui sont spirituels. Puis des fois, c'est en lien avec l'argent, parce que quand on reçoit des rentrées d'argent, on fait un projet. Puis souvent, nos projets sont plus terrestres là, au niveau de pourcentage. On peut aussi avoir l'illusion qu'un jour, nous serons comblés quand on trouve que là, on a un meilleur revenu, une meilleure maison, une meilleure voiture, un meilleur confort, une plus grosse télé. Des fois, c'est très subtil. Là. Il n'y a personne qui se réveille le matin disant « je veux vraiment être plus riche ». Mais nos besoins ou les choses qu'on voit, là, la publicité, le marketing, nous le fait dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je trouve que j'ai bien tombé dans le piège. J'écoutais des émissions, puis il y avait toujours le logo « Bora Park ». En bas de mon émission. Là, ça a piqué ma curiosité. Va sur Google, le parc aquatique au Québec. Bien là, j'ai comme eu le goût que pendant notre vacances cette semaine avec les enfants, on aille là. On est comme subtilement influencé. Je dis pas que c'est négatif là, d'avoir des sorties puis d'aller là, mais on est dans un milieu de consommation. Fait que il y a des choses qui nous rentrent à l'œil. Puis des fois, on voit que ça serait bien si on aurait ça. Telle auto est plus fiable, telle maison est plus confortable. Fait qu'on devient avec certains besoins qu'on a. Aussi, la notion de subvenir aux besoins de sa famille veut dire être capable de leur en donner toujours plus. Ou en tout cas, on étoffe notre façon de subvenir à notre famille en étant une famille qui est créative, qui a des belles activités, des belles événements. Puis des fois, on dit « oui, c'est pour mes enfants, c'est pour leur bien, je veux pas les traumatiser, je veux prendre soin d'eux ». Mais des fois, ça dépasse cette capacité-là. Puis notre confort matériel fait partie de comment on veut subvenir aux besoins de notre famille. Puis ça devient biaisé un petit peu. Que les relations interpersonnelles seront enrichies par l'argent. Ça, on pourrait dire non, on ne l'est pas du tout, là. Ça fait pas partie de nous en Église, on se voit, on se parle, l'argent n'a pas rapport, je parle aux pauvres, je parle aux riches. Quand je pensais à ça cette semaine, je me disais, bien, quand on invite des gens chez nous, est-ce qu'on attend d'avoir un bon repas, une meilleure épicerie, une maison propre, une maison qui a plus d'allure, qui a moins de réno? Est-ce que des fois, nos biens matériels, notre confort fait que ça l'influence des relations qu'on crée ou des invitations qu'on a à cause de notre contexte dans lequel on est? Fait que des fois, c'est très subtil. Que la prospérité fera d'eux de meilleurs individus, bien là, ça, c'est vraiment la croyance populaire, que plus on a d'argent, plus on est capable d'être confortable, puis atteindre certains objectifs. On va revenir là, puis on va voir au fur et à mesure là, que Acte 20, 35 est vraiment important. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'était intéressant, dans le livre de Mme News, elle faisait un survol de l'offrande dans l'Ancien Testament. Moi, j'avais oublié ces notions-là. Fait que, en les revisitant, ça relativisait aussi nos impôts d'aujourd'hui, le montant qu'on donne. Dans le fond, là, dans le temps, on avait la dîme de l'Éternel. Hein? La dîme, tout le monde le sait, c'est le 10% que les gens, le peuple, devaient donner d'une portion de leur bétail, de leur possession, de leurs biens. Ce 10%-là était vraiment donné aux Lévites pour le temple, pour vraiment le ministère là, précis de l'Évangile. Du culte, de l'offrande et tout à cette époque-là. Il n'y avait pas la notion d'Évangile. On voit même là, qu'un homme qui ne payait pas son dû, c'était comme s'il volait d'emblée Dieu. On le voit dans Malachie. Fait que son but, c'était vraiment de créer une place, le temple, puis les Lévites s'occupaient de ça. Il y avait aussi un 10% qui était obligatoire, qui était dans le but là, d'introduire une célébration religieuse, d'avoir des événements et tout ça. C'était vraiment la dîme des réjouissances. Il y avait une autre dîme, une troisième dîme, qui était la dîme pour les pauvres. C'était comme un calcul de 10% sur 3 ans, ce qui donne 3,3% environ chaque année. Ça, c'était pour faire une sorte de fonds d'urgence pour pourvoir aux besoins des pauvres. Hein? Ils prenaient soin des veuves, des orphelins, des pauvres. Il y avait comme un moment qui était comme une sorte d'assurance assistance sociale qui était là, à sa façon. Il était aussi encouragé aux agriculteurs ou aux gens qui avaient des champs de ne pas cultiver les coins de leurs champs pour pouvoir que les pauvres aillent se nourrir de cet endroit-là. On le voit dans l'histoire de Ruth, hein, où elle peut aller glaner dans le champ de Boaz et récolter certaines choses. Il y avait vraiment, non pas une tolérance, mais un encouragement à ce que les gens puissent donner une certaine partie de leurs choses aux pauvres. Puis on voit même là, de cueillir pas tous les grappes de la vigne pour que les gens puissent avoir accès. Fait que les gens avaient vraiment été encouragés fortement à faire ça. Donc, ça donne à peu près hein, 23,3%. Les gens pouvaient donner un peu plus s'ils voulaient, mais ça donne quand même un pourcentage plus élevé que le 10% qu'il y avait à ce moment-là. On avait aussi des dons qui étaient non obligatoires, volontaires, là, venant du cœur. Donc, on a les dons que les gens pouvaient donner les prémices de leur récolte. Les prémices, c'est vraiment les premières portions des moissons qu'ils avaient. En fait, là, ce que ça voulait dire, c'est que les gens, les premières moissons qu'ils avaient, ils donnaient sans savoir si c'était une bonne ou une mauvaise moisson qu'ils allaient avoir. Donc, c'est vraiment un geste pour montrer qu'ils avaient confiance que Dieu allait pourvoir à leurs besoins, même s'ils donnaient la première portion. Fait que c'était très différent de donner 10% de ta récolte versus de donner hein, les premières récoltes où tu ne sais pas sur quelle quantité tu donnes, mais bien d'être reconnaissant que Dieu a pourvu pour une belle moisson au début. Donc, même à ce temps-là, il y avait quand même une notion de donner volontairement, allègrement, mais il y avait des choses qui étaient obligatoires aux yeux de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça change. Hein? Nulle part on trouve là, des choses aussi claires, aussi précises, des chiffres aussi francs. On est vraiment plus dans la grâce de donner, non pas en fonction de nos ressources, mais avec notre cœur, de bon cœur, allègrement, dans la joie. On est vraiment plus dans cet aspect-là. Puis on va le voir là, dans une des femmes, la veuve au temple, comment Jésus fait son enseignement pour être dans la grâce de donner. Il faut voir ça comme un privilège et non pas comme une obligation, un acte à accomplir. Là. On a vraiment un autre portrait dans le Nouveau Testament. Puis, dans le Nouveau Testament aussi, on va le voir dans les actes, hein, la personne commence à avoir un réflexe que donner, c'est vraiment naturel parce que tout appartient à Dieu. Fait que de lui laisser une partie, ça devrait être naturel. Fait qu'on va le voir, les deux femmes en témoignent beaucoup de ces aspects-là. Dans la discipline de l'offrande, on voit aussi que pour atteindre une certaine maturité spirituelle, il faut être capable de donner. Ça fait comme partie du cheminement, comme d'apprendre à prier, d'avoir un culte. Hein, l'offrande, c'est une louange à Dieu qu'on remercie, qu'on est reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Ça fait partie de notre cheminement spirituel, de notre maturité spirituelle. Ce qui est très important de comprendre, c'est que Dieu n'est pas attaché à notre argent en soi, mais bien à notre acte de donner. Jésus a mis plus souvent en garde ses auditeurs contre la notion de l'argent que contre l'enfer, l'immoralité sexuelle. Hein. C'est très sournois. Jésus savait que ça pouvait être très dur dans nos cœurs, ça pouvait devenir une idole. Jésus met constamment à présenter le fait qu'il faut mettre notre confiance dans les richesses spirituelles et pas ceux terrestres, parce que ça peut être un handicap pour nous. La Bible en parle à de nombreuses reprises, comme je vous dis. On va en lire quelques-uns juste pour se remettre dans le contexte de comment Jésus ou l'Ancien Testament... ça c'est tout des nouveaux. Comment Jésus parle de l'argent. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Hein, il est très sévère toujours. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Finalement, on connaît le classique, hein? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Hein, on a même la redondance là, du verset dans Luc. Donc, Jésus, là, il nous en parle de façon constante là, dans les évangiles. Alors, là, on a certaines populations qui ont décidé, eux, de s'enlever du matérialisme. Hein? Hier, je disais le nom comme il faut, les Amish, hein, qui ont décidé de s'isoler, d'avoir leurs propres règles, de ne pas être dans le matérialisme. Hein? Mais c'est pas nécessairement ça la clé que Dieu nous parle dans la parole. Je pense même à une époque, moi, ma mère, quand elle s'est convertie, ses sœurs allaient... j'ai un blanc... Adventiste du septième jour. Hein? Puis à ce moment-là, au début, ils ont dû enlever toutes les tapisseries, les cadres, elle devait donner les photos, les albums photos, tous les bijoux. Ça devait vraiment être épuré pour que si ton regard se porte sur quelque chose, tu ne sois pas tenté d'être dans l'idolâtrie. Fait que, hein, ma mère, elle a encore la bague de sa sœur qui lui avait donnée. Puis ma tante, elle n'a plus de photos de son enfant là, dans les 3-4 années où qu'elle était là, parce qu'il y avait vraiment ce désir-là d'éliminer toute idolâtrie qu'il pouvait y avoir. Puis tes enfants pouvaient en être, les bijoux pouvaient en être, la beauté d'une maison pouvait en être. Fait que c'était un sacrifice très important. Mais dans la Bible, Jésus nous parle de la grâce de donner, d'avoir un cœur pour donner au lieu de retenir ça pour nous. Puis il faut vraiment croire que le fait d'amasser des trésors au ciel est beaucoup plus important que de les ramasser ici. Donc, ceux qui donnent à Dieu désarment la puissance de l'argent. Ils invitent la grâce de Dieu à se répandre en eux. C'est comme si le fait de toujours combattre puis de tout le temps dire « je fais ça », ça garde une sorte de puissance, qu'on garde l'argent captif. Tandis que de vraiment poser des actes de don, on laisse la puissance à Dieu d'agir à travers ça. Donc, dans la discipline, il y a deux choses qui sont abordées. Hein. Pour l'offrande, on parle de la discipline mentale puis de la discipline de la volonté. La discipline mentale, là, c'est de vraiment le faire sans se dire qu'on va être récompensé par la suite. Hein, on a l'impression que si on donne, on va recevoir. Par contre, paradoxalement, Jésus nous dit que l'acte de donner va souvent nous apporter des bénédictions, souvent spirituelles, mais peut aussi nous apporter des bénédictions matérielles. Puis nous, là, dans notre quotidien, les gens avec qui on fréquente, il y a certaines histoires qui reviennent où quand on donne, Dieu nous redonne certaines choses. Il nous redonne certaines choses. Puis c'est vraiment d'être attentif à ce que Dieu nous accorde. Une petite anecdote que je voulais compter, c'est que ma sœur, à un moment donné, Rachel, celle qui est venue pour le livre, était à Chicoutimi. Son mari travaillait pour Parole de vie Bethel là, comme implanteur, visiteur de club de la Parole de vie. Fait que il y avait un salaire très, très restreint qui dépendait de dons. Là. C'était très difficile d'arriver financièrement. Puis, il avait acheté une maison à Chicoutimi, vu qu'il avait eu un enfant. Puis là, mon père est venu les aider pour la salle de bain, éviter les coups. Puis là, ils ont acheté la toilette en spécial, puis ils l'ont installée. Mais ma sœur, elle mesure 4 pieds 9, 4 pieds 8. Fait que la toilette, un coup installée, était trop grande. Hein? Ça donnait à des pattes surélevées, c'est pas confortable. En tout cas, peut-être vous avez jamais vu que ça, mais c'est pas confortable une grosse toilette quand t'as des petites pattes. Puis là, ma sœur, là, elle se disait, je peux pas changer de toilette, là, il faut que le contentement, hein, je suis correcte, je suis capable, mais c'était un défi quand même, là, d'être inconfortable sur la toilette, mais elle a décidé de prier là-dessus, puis elle n'en a pas parlé à Jonathan, elle voulait pas mettre ce fardeau-là, puis elle trouvait ça bien niaiseux d'être tannée par la toilette, hein. Mais là, un jour, elle reçoit une enveloppe avec une lettre et un chèque à l'intérieur d'une collègue de travail. Ma sœur a travaillé à Sembec. Puis une collègue de travail lui écrit une lettre puis lui dit « Rachel, ça fait longtemps qu'on s'est vus, mais cet été, j'étais allée à Muskoka Baptist Conference, là, un camp en Ontario. Puis elle dit « J'ai eu une chambre pour les handicapés. Puis pendant une semaine, j'ai été assise sur une toilette surélevée. Puis j'ai eu un inconfort toute la semaine. » Puis j'ai pensé à toi, puis je me suis dit que peut-être ta toilette est bonne, mais si tu avais besoin de changer, je te donne l'argent pour une toilette confortable.
Wow. Ouais.
Mais tu sais, ça peut être dans un livre là, qu'on écrit ça. Hein? Il me semble que c'est pas comme normal. Mais là, Rachel, elle a changé sa toilette avec l'argent. Puis il y en a d'autres anecdotes comme ça où elle a dépendu souvent de Dieu parce que le salaire était moindre là. Puis il n'y avait pas. Puis je trouve qu'il y avait comme cette notion-là où qu'il décide de donner, de sacrifier, puis que Dieu pourvoit à des besoins d'une quelconque façon, au-delà de ce qu'il pouvait espérer, puis sans aucune attente. Fait que Dieu est grand, puis donne des bénédictions à tout moment. Puis il faut garder à l'esprit que l'offrande qu'il donne à Dieu doit être le fruit d'un sacrifice, hein, puis c'est souvent ça qu'on va voir avec la veuve, sans vous donner de scoop, là, c'est d'être capable de donner, pas de façon confortable, mais de donner, sachant que ça peut nous coûter quelque chose. Ça doit être décidé entre nous et Dieu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis c'est important de prier là-dessus et de demander à Dieu ce qu'il veut pour nous. On peut lire dans Luc, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Hein? » On a un Dieu qui est très bon envers nous. Puis, autre la discipline mentale, là, d'avoir comme... La discipline mentale, hein, c'est d'avoir ça à l'esprit puis de prendre une bonne décision. La discipline de la volonté, bien, c'est de le faire. Hein? Parce que on a des fois des bonnes intentions. Le montant est dans notre budget, mais après, la volonté dépend des circonstances, des événements, des semaines, de nos dépenses. Alors, c'est vraiment d'être capable de faire ça comme un culte d'adoration, de faire ça en silence. On parle souvent d'un 10 %, on pourra en reparler par la suite pour ça. De donner de façon assidue, puis de commencer à donner maintenant. Hein? C'est plus ça, là, des fois, qu'on voit dans le repas. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. On remet la notion de prémisse. Hein? Comme dans l'Ancien Testament, les gens qui donnaient la première portion de leur moisson, on voit hein, que chacun, le premier jour de la semaine, hein, le premier jour de votre paye. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On est vraiment dans la période de grâce. Donc, ce qu'il faut se questionner, puis la bonne question à répondre, puis après, ça nous permet d'aller plus loin, c'est de savoir à quel point l'argent a une importance dans nos vies. Si c'est difficile pour nous donner, bien peut-être qu'il faut se questionner sur l'importance que l'argent a pour nous, tout en vivant notre quotidien. C'est toujours ça la notion. Hein? Jésus, il va donner des exemples avec la veuve, puis on va le voir dans Actes. Le but, c'est pas qu'on devienne indifférent puis qu'on vive pas. C'est plus là, d'être capable de désamorcer cette idole-là dans notre vie puis d'y accorder moindre importance, puis d'être fidèle et discipliné pour offrir à Dieu. Alors, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le verset qu'on a vu au début. C'est ça que Jésus veut nous inculquer. Là, on va parler de la veuve pour un peu voir... la discipline de l'offrande. Étant donné que c'était deux femmes qui avaient vraiment un court espace dans la parole, là, j'ai décidé de lire au complet pour qu'on puisse avoir tout l'essence là, du texte. Fait que dans Matthieu 12, on a... Marc 12. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit... « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus, il s'est préoccupé de l'incidence du don de la veuve dans sa vie. Il faut comprendre là, qu'un quart de sou aujourd'hui, ça peut être encore moins qu'un quart de sou. Là. On est vraiment dans un don infime, là. Qui va avoir aucun impact dans le temple, OK? Son argent va être pris, il n'y aura pas un impact significatif. Ce n'est pas le montant d'argent qui est là. On aurait pu dire à la femme, garde-le, ça ne vaut rien pour le temple, ça vaut peut-être plus pour toi. Mais la femme, elle avait vraiment un don plus fort de donner. Elle avait le goût de faire un sacrifice puis d'aller plus loin. On n'a pas de détails là, sur la veuve, sa condition, comment elle était. Mais Jésus, lui, il a remarqué son humilité puis son désir de donner au travers des gens qui donnaient des gros montants, mais qui ne donnaient pas de leur superflu. Fait que c'est pas que son argent a fait la différence au niveau monétaire, c'est vraiment au niveau de son don. Puis je l'ai dit plus tôt, Dieu, il ne s'attache pas nécessairement au montant d'argent auquel on donne. Hein, il y a eu une période de vie dans certaines églises où que les gros donateurs avaient leur nom décrit sur des bancs ou sur des plaques. Hein, puis on l'a encore dans certaines églises. Bien, on voit que cette notion-là est peut-être erronée, hein, parce que le but, ce n'est pas nécessairement la valeur du don. C'est comment on a pu donner. Dieu a béni certaines familles qui sont très aisées. Ça leur permet de donner des gros montants. Peut-être que c'est un sacrifice pour eux, puis il ne faut pas renier le cœur de ces gens-là non plus. Mais il y a des gens qui vont donner vraiment de leur surplus, qui vont donner justement de leurs besoins, puis c'est des gens à honorer aussi. Hein. Fait que Dieu il s'intéresse au mobile du donateur. Quiconque partage tout avec Dieu découvrira comment la bénédiction de Dieu peut changer le peu en beaucoup. Il peut multiplier la valeur du don. En Dieu, il fait des miracles encore aujourd'hui, qui peut être parfois de façon moins évidente, mais qui peut vraiment donner un certain... Un impact important. Puis ce qu'on fait avec notre argent révèle nos priorités. Hein? Je pense que ça, là, c'est vraiment la clé qu'on retient de la veuve. La veuve a voulu témoigner de son amour, faire un sacrifice, puis ça l'a témoigné de ses priorités. Parce que c'est sûr qu'une priorité dans la vie, c'est de se nourrir, c'est de se vêtir, c'est de se loger. Mais la femme, elle a, à son détriment, fait un don d'argent. On passe tout de suite à l'autre femme, Saphira. Là, vous allez voir, moi, quand j'ai choisi Saphira, pour moi, c'était une évidence que c'était face à l'offrande. Puis, j'ai réalisé que c'est souvent entrecoupé, hein? Les péchés, l'égoïsme, le contentement, toutes ces choses-là mises ensemble peuvent être liées dans la discipline de l'offrande. Alors, Saphira, c'est dans les Actes. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Oh, il y a une faute. Appartenait. En tout cas, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ, du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un destin pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditoires. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui lui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Hein? Quand on ne prend pas ça dans son contexte, on trouve Dieu très sévère. Hein? Fait qu'on va faire un petit tour du contexte. Jésus était mort, était ressuscité. Le Saint-Esprit était descendu dans la ville de Jérusalem. Donc, une nouvelle vague, un changement dans la portion de la société où les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, les gens avaient vraiment une transformation là, visible à l'œil nu. Les gens avaient un enthousiasme, une unité, un esprit là, face à Dieu là, de façon importante. Tout le monde avait vraiment un lien fraternel, un désir profond de propager l'Évangile. Alors, les croyants s'assemblaient chaque jour dans le temple, partageaient leurs biens, étaient vraiment en collectivité, puis voulaient vraiment apporter ça à tout le peuple. Les riches vendaient leurs biens, on le voit, les possessions étaient partagées, il y avait un désir d'équité très fort. On a Joseph, là, Barnabas, qui vend un champ et donne l'entièreté du montant aux pieds des apôtres pour qu'ils l'utilisent pour la communauté. Hein. Il est comme devenu une sorte d'héros que les commentateurs nous parlent. Joseph était comme une sorte de... avait été acclamé par les croyants tellement les gens étaient reconnaissants de son don. Fait qu'il avait comme eu un petit statut là, par son don d'héros de la foi à cet épisode-là. On ne sait pas le cœur de Saphira puis d'Ananias. Ils faisaient partie du groupe de chrétiens. Dans les actes, on voit qu'ils disaient qu'il n'y avait pas d'indigents. Donc, est-ce que Ananias puis Saphira avaient vraiment un cœur pour le Seigneur, étaient des vrais disciples partagés? Hein? On ne sait pas ils étaient où dans leur cheminement, mais clairement, ils faisaient partie de la première église. Hein? C'est la première fois qu'on voit le mot église qui est utilisé dans les actes. Puis, ils faisaient partie de ce regroupement-là. Il y en avait beaucoup qui avaient compris l'appel que Jésus avait fait plus tôt là, dans sa vie, là, que si on quittait là, sa mère, sa maison, son champ, qu'on allait recevoir dans les siècles à venir, tout ça, là, une bénédiction. Alors, les gens étaient vraiment attirés par cet appel. Alors, est-ce que Saphira et Ananias combattaient entre le désir de donner versus le désir de bien paraître? Est-ce qu'il y avait vraiment... Qu'est-ce qui les motivait? Ils ont quand même donné une portion du prix du champ qu'ils ont récolté, qui devait être une grosse partie, là, qui devait quand même être un montant substantiel. Donc, il y avait vraiment un désir de donner de l'argent pour faire avancer la cause. Est-ce que leur motif était seulement de bien paraître? Là? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, ils se sont entendus entre eux pour réserver une partie de ce montant-là en prétextant d'avoir tout donné. Quand on regarde, là, Ananias n'a pas eu le temps de mentir puis de dire qu'il n'avait pas donné ce montant-là, mais elle, Saphira, là, clairement, oui, elle a dit qu'elle avait vendu au prix indiqué puis c'était vraiment un mensonge. Fait qu'ils se sont entendus ensemble pour mentir au Saint-Esprit puis tromper Dieu. C'est drôle parce que dans les commentaires, on voit comment Ananias et Saphira formaient un beau couple à l'image d'aujourd'hui, unis dans une bonne décision qui est difficile, l'argent. Ils pouvaient former une sorte de couple modèle à ce moment-là, mais ils se sont mis ensemble pour faire le mal. Hein? Ils ont, à cause de leur manque d'honnêteté, la valeur de l'argent s'était annulée. Même s'ils donnaient 100 000 $ si le montant était 125 000, même si ça semblait être un geste généreux, tout était annulé parce qu'il y avait le mensonge qui était pris là. Puis ils en ont payé de leur vie. Hein? Puis on le voit là, dans Hébreux, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert au lieu de ceux à qui nous devons rendre compte. Hein? On n'est jamais seul, même dans nos pensées. Dieu est au-dessus de tout ça, puis le Saint-Esprit aussi, puis il n'y a rien qui est caché. Alors, comme j'ai dit, Saphira fait preuve de loyauté envers son mari. Même si c'était pour une bonne cause, pour avancer le royaume, c'était pas une question d'argent, c'était une question de tromperie et d'honnêteté. Puis c'est pour ça, moi, je trouve qu'en lisant Saphira, on voit que ça va plus loin que la discipline de l'offrande. Ça va avec la discipline de l'esprit, à la prédisposition, du contentement, comment Saphira et Ananias ont gardé une portion pour être contentés dans leur bien matériel ou en tout cas manquer de rien. On voit aussi qu'ils manquent de confiance en Dieu, parce que s'ils retenaient un prix, on suppose que c'était pour être sûr qu'ils allaient avoir plus de moyens, plus de ça, puis ils ne faisaient pas confiance que Dieu allait leur accorder le confort dont ils avaient besoin. Fait qu'ils se sont mis d'accord sur le montant d'argent, puis oui, c'était nouveau le concept de Saint-Esprit et tout ça, mais ils se sont aussi mis d'accord qu'ils allaient s'en tirer à bon compte, s'ils mentaient, ils allaient pouvoir s'en sortir probablement, puis que Dieu n'allait pas nécessairement leur donner une conséquence. Mais on le voit, hein, puis on le voit beaucoup, beaucoup dans l'Ancien Testament, comment Dieu est très conséquent. C'est un Dieu qui est juste, qui est droit, et chaque péché mérite sa conséquence. Puis nous, dans le Nouveau Testament, on est vraiment dans la période de grâce. Hein? Dieu a envoyé son Fils, puis par son Fils, là, nos péchés sont pris à la croix. Mais Dieu a en horreur le péché quand même, hein? Puis Dieu donne des conséquences, puis on le vit avec Saphira puis Ananias. Alors, ils ont manqué de foi. Ils ont douté que Dieu allait pourvoir leurs besoins. Ils ont manqué de confiance, hein, parce que c'est un partage équitable entre tous. Ils auraient dû faire confiance aussi dans la communauté pour être capable de dire qu'ils allaient eux aussi subvenir à leurs besoins. Puis ils ont manqué de volonté en investissant plus dans un futur spirituellement riche qu'un présent, non l'inverse. Un futur, je le redis, ils ont investi dans un présent riche terrestre au lieu d'investir dans un futur spirituellement riche. Donc, il y a des leçons à retenir de Saphira. De l'histoire de Saphira, l'orgueil et la générosité ne font pas même ménage. Hein? On retrouve nos disciplines mises ensemble. Dieu aime qu'on partage. Là, on parle d'argent, mais moi, j'aime bien la notion de temps, d'énergie, hein? De labeur, de ressources pour notre joie de donner. Fait que pour des gens, la difficulté, ça va être de donner leur argent, mais pour d'autres, ça va être de donner leur temps. Pour d'autres, ça va être de donner, d'inviter, de partager leur maison. Hein. Faut voir ça même plus large que les offrandes. C'est nos ressources en général que Dieu nous donne. Quand nos motivations sont pures, alors le don n'est pas seulement facile, il est carrément joyeux. Apprenez à donner quand personne ne regarde. On a cette notion-là hein, qui revient que Ananias et Saphira, est-ce qu'ils voulaient prendre la place de Joseph et Barnabas, puis eux aussi être des héros de la foi par leur don? On ne sait pas si c'était leur seul chant. Hein. Peut-être qu'il y avait 10 autres chants. Ils donnaient ce chant-là, mais vu que c'était un montant plus important que Joseph, ils se disaient, nous aussi, on va être acclamés par notre montant. Mais en tout cas, ils l'ont fait vraiment devant tous, puis on voit que ça n'a pas été payant pour eux non plus. Jésus reparle là, dans Matthieu, « Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais, ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'honnêteté n'est pas la meilleure politique, c'est la seule. Hein? Il faut avoir vraiment un cœur pur, des motifs purs devant Dieu. Puis devant l'argent, faites le bon choix. Poursuivez des richesses temporaires au lieu de ceux qui sont éternels. Fait que c'est vraiment les leçons qu'on reparle, puis on peut faire un lien aussi avec la veuve, puis avec l'offrande. Fait que là, comme je vous dis, c'est un sujet qui est très quotidien hein, dans nos décisions de faire l'argent. Pour des familles, c'est établi, ça fait longtemps qu'on a nos montants d'argent et tout. Puis là, quand que j'en parlais à Luigi, hein, je vous dis chaque semaine, Luigi a un bon commentaire à m'apporter. Il dit oui, mais là, il y a la notion, bon, 10 % de pourcentage et tout, mais il y a la notion aussi de donner le même montant ou le même pourcent depuis 10, 20 ans ou que... On donne notre montant, c'est un sacrifice, c'est une portion. Mais des fois, il faut se questionner pour avancer aussi dans notre vie d'offrande. Hein? On veut progresser dans notre vie de prière, on veut progresser dans notre vie de culte. Mais il y a aussi des fois une progression à faire dans notre vie d'offrande pour être capable de dire qu'on est toujours dans cette grâce-là de donner puis dans nos motivations face à l'argent qu'on peut donner. Fait que moi, on dirait que dans ma tête, le 10 % était comme là, tu sais, dans les dernières années. Il y avait comme cette notion-là. Mais on se rend compte que quand on refait notre budget annuel, des fois, ce 10 %-là, c'est un sacrifice. Des fois, c'est du surplus. Des fois, fait qu'il faut vraiment y aller là, de façon, chaque année, se re-questionner. Puis ça devrait faire partie aussi dans nos priorités de regarder ça. Fait que là, je vous ai apporté deux petits exemples pour être très concrète. Même si c'est un sujet assez concret, l'argent. Bon, là, je ne suis pas capable de le grossir plus. Là. Est-ce que... Ah oui, je suis capable. Ouais. OK. Fait que là, je vous ai apporté deux exemples parce que on, dans la dernière année, avec mes amis, ma famille, on a beaucoup parlé d'argent. Je ne sais pas pourquoi, on parlait de comment arriver avec notre argent. On a des amis qui ont dû faire des consolidations de dettes. On a des amis qui ont été en faillite. On a eu comme beaucoup de contextes d'argent dans notre quotidien autour de nous. Puis, il y a des gens qui, eux, n'ont pas eu de consolidation, qui ne sont pas en faillite, mais ils ont pris des trucs puis des conseils. Puis, je trouvais ça intéressant, sans être du tout, là, c'est Luigi le comptable. Moi, je ne suis pas comptable. Mais pour vraiment donner des choses pratiques où que les gens ont vraiment pris certains trucs puis certains conseils, puis je trouvais que ça allait avec la notion de vouloir être un bon disciple de Jésus puis de gagner en maturité spirituelle, c'est d'avoir des trucs puis des choses que dans notre quotidien, ça nous aide à atteindre certaines choses. Hein? Pour notre vie de prière, notre culte, on dit toujours le même moment, la même journée. Hein? On se donne des trucs pour être capable d'avoir une routine et tout. Puis pour l'offrande, bien, des fois, c'est pas ça. Fait que là, ici, là, je voulais être imagée parce que je trouvais qu'un budget Excel, c'était pas à la portée de tous, dont la mienne. Donc là, ici, on a vraiment là, des catégories où que dans notre quotidien, on fait. Donc, on a vraiment les besoins qu'on a, alimentation, logement, vêtements, transport. On a les notions qu'on investit, on met de l'argent. On a le don, puis on a les dépenses. Hein? Fait qu'on voit nos besoins, nos désirs, notre investissement, puis nos dons. Fait que les budgets, souvent, quand on demande, là, il faudrait que je demande à M. Panton comment il montait le cours sur les finances. Mais en tout cas, sur l'autre cours, on voyait vraiment comment travailler pour vraiment faire que notre budget fasse du sens. Hein? Parce que de donner à crédit ou à superflu n'est pas nécessairement plus sage que de donner par sacrifice. Je m'explique. Hein? Nous, on a un ami qui est très généreux, qui nous paye des restaurants ou des choses. À un moment donné, moi, j'ai dit à Luigi, je dis, je suis mal à l'aise parce que je le sais qu'il nous donne ça à crédit. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est très généreux de sa part, mais ça l'empiète, lui, dans sa vie. Tu sais, fait que je trouve que des fois, on se dit, OK, là, je fais un sacrifice, je donne ça. Mais si on n'a pas été sage dans tout ce qu'on fait, c'est pas nécessairement une offrande qui peut être réfléchie. C'est important de prendre tout en considération pour pas non plus que notre don soit un sacrifice pour nos enfants puis que ça l'aurait pas dû parce qu'on aurait dû réfléchir autrement. Donc, j'ai trouvé comment on, sur le, ben pas que j'ai trouvé, mais sur Internet avec Pinterest, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples pour comment enseigner nos enfants à la notion d'argent. Puis là, peu importe ce que je cherchais, il y avait vraiment une récurrence, puis je trouvais ça bien intéressant. Puis je me suis dit, comment enseigner ça simplement à nos enfants, puis en même temps le comprendre dans nos vies? Fait que là, je vous ai mis le tableau qui reflète assez bien. Fait que dans Pinterest, là, t'avais, ils mettaient des petites bouteilles, il y en a qui faisaient des boîtes, t'avais vraiment plein de formats, mais c'est que t'enseignais trois concepts à tes enfants. La première, c'est que peu importe ce qu'on donne à nos enfants, il y a toujours une notion de dépense. Hein? Pour nos enfants, c'est toujours des jouets. Hein? Fait que là, eux, ils ont la notion que du montant d'argent qu'ils reçoivent, ils ont une dépense à faire, puis ils ont le droit à certaines activités, jouets. Là, c'est rare que nos enfants, c'est des choses nécessaires là, qu'ils ont à acheter, mais il y a la notion de dépense. Nous, nos dépenses, c'est l'essentiel. Hein? Le loyer, l'électricité, le logement, l'essence et tout. Fait que nos enfants, sur le montant, on leur apprend qu'il y a une portion qu'ils ont le droit de dépenser. Puis des fois, on leur donne tout de l'argent, puis eux, ils ont le droit de dépenser tout ce qu'ils ont. Mais on devrait leur inculquer de diviser notre argent en trois façons, selon le petit guide. Puis moi, je trouvais que c'était très bien expliqué. Le deuxième guide, c'est d'expliquer à nos enfants qu'il faut faire une certaine économie, épargne. Puis, on voyait qu'il y avait des cases selon les âges. Hein? L'économie pour un enfant de 5 ans versus un enfant de 12 ans, c'est très différent. L'enfant de 12 ans, pour acheter son Xbox, sa nouvelle paire de souliers, est beaucoup plus intéressante et il est beaucoup plus motivé parce qu'à chaque montant d'argent, il va économiser dans le but de dépenser. Okay? Tandis que pour les enfants, puis nos adultes, il y avait aussi de rajouter la notion de dons et d'offrandes. Donc, d'être capable de diviser nos enfants pour que quand ils reçoivent certains montants, il y ait une portion qui aille dans les dépenses, une portion qui aille dans les épargnes, puis une portion qui aille dans les dons. Déjà, leur inculquer la notion que notre argent ne nous appartient pas, puis qu'il y a une portion à mettre dans nos dons et nos offrandes. Je vais vous montrer l'autre image. En fait, on a même des leçons d'école du dimanche qui ont été bâties pour pouvoir leur apprendre ça. Hein? D'avoir des enveloppes, de pouvoir mettre dans des catégories. Ça rejoint un petit peu la notion de petit pot. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ma famille et dans mes amis, il y a vraiment des gens qui ont décidé de faire ça par enveloppe parce qu'ils ne se faisaient pas confiance ou ça allait trop vite. Hein? On est à l'épicerie, on s'est mis un montant d'argent, mais là, ça c'est en spécial, ça c'est en spécial, c'est beaucoup plus logique d'acheter ça là parce qu'il y a ce montant-là. Puis finalement, les gens n'arrivaient pas dans leur budget, puis étaient toujours à crédit, puis il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir le crédit même rendu là. Donc, il y a vraiment des gens, puis hier, j'ai rencontré une personne qui avait changé son portefeuille en accordéon, puis qui avait mis des sections, puis qui avait divisé son argent dans l'accordéon. Au début, elle faisait les enveloppes. Là, c'était un peu compliqué dans sa sacoche. Fait qu'elle s'est acheté un petit accordéon chez Dollarama, puis elle a mis des catégories. Bon, là, la maison, souvent, ça passe tout seul. Hein? C'est des factures à payer. On voit pas nécessairement l'argent sorti. Mais elle avait mis, mettons, 60 $ pour son mois de restaurant dans l'enveloppe. Quand il n'y en a plus, il n'y a plus de restaurant. Fait qu'elle avait vraiment cette notion-là, l'épicerie, le montant. Puis ça continuait comme ça. L'essence, là, elle me disait qu'elle avait mis sur son dash d'auto, parce qu'elle ne sait pas si c'est elle ou son conjoint qui teigne. Donc, l'argent est dans l'auto pour être sûr que quand ils vont, ils mettent de l'argent. Fait qu'on est vraiment dans les gens qui ont un montant fixe, qui n'ont pas de superflu. Puis, il y avait vraiment la notion de don, ou que là, c'était un retrait préautorisé, ou un montant que quand tu sors, mettons, ton 200 $, puis tu le divises dans tes enveloppes, il y a déjà une portion qui y va. Fait que c'était juste, moi je me suis rendu compte, moi j'avais pas pensé à ces options-là. Nous on fonctionne par carte, on a un budget Excel, on a comme géré ça autrement, puis c'est correct. Mais quand j'ai vu là, que dans mes amis, puis dans ma famille, pas juste une personne, plusieurs avaient des difficultés, puis avaient trouvé comme moyen d'être capable de catégoriser, moi je me rendais compte que je prenais ça pour acquis, tu sais, ça sort, puis ça va là. Mais eux, là, devaient vraiment sortir un montant, le retrancher, puis quand il n'y en a plus dans la notion d'épicerie, ils vont pas chercher dans l'enveloppe don le montant pour racheter ça. Il y avait vraiment une notion que c'est donné. Puis je trouve que nos enfants, c'est la même chose. Souvent, on leur enseigne, tu as eu de l'argent pour ta fine, puis on peut faire ça, ça, ça. Mais très jeune, de leur inculquer l'importance aussi des économies, hein, tu sais, on sait ce que ça peut vouloir là, dans leur vie future terrestre, là, mais de leur enseigner aussi les dons. Pas juste être capable, d'un moment donné, on donne un don, ça, mais de tout montant d'argent qu'on reçoit, être capable de le redonner. On voit même dans l'Église ici, dans les autres églises, que présentement, il y a un grand déficit au niveau des jeunes gens dans leurs dons. Parce qu'ils commencent à avoir de l'argent. Est-ce que, bon, c'est au niveau de l'enseignement qu'ils ont eu ou pas eu, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un rapport à l'argent qui est un peu différent de la nouvelle génération. Puis c'est important que nous, en tant que parents ou en tant qu'oncle, que tante, que notre soeur, qu'on puisse être capable d'avoir un impact sur eux par certaines éducations. C'est plus facile de vous transmettre le message en parlant des enfants qu'en parlant de nous. Hein? Parce que nous, des fois, hein, c'est pas pareil. On a beaucoup trop de dépenses. Là. Des fois, on pourrait mettre 100 lignes dans la feuille Excel pour dire comment on a de dépenses ou d'obligations. Il y a des gens qui me parlaient là que il y en a qui doivent payer des pensions quand ils sont séparés à une autre personne. Il y a vraiment des contextes particuliers là que tu sais moi j'ai pas de réponse ou que c'est pas spécifiquement dit dans la Bible là, ceux qui ont tel contexte qui ont fait une faillite font ça, ça le don doit être différent. L'important c'est de se questionner. C'est toujours la même chose à chaque discipline, hein? De réévaluer les motifs de notre cœur, d'être sûr que l'argent, c'est pas une idole dans notre vie, puis d'être capable de faire ça de façon sage, fait que d'avoir pris le temps d'y penser. Ça soit pas juste réfléchi, irréfléchi ou oh, là, on a un montant présentement, on le donne là. D'être capable d'avoir une constance, une réflexion face à tout ça pour être capable de maturer spirituellement, mais surtout aussi de voir les bénédictions que Dieu nous apporte face à ça dans notre contentement, notre générosité, notre sentiment là, de vraiment travailler pour sa gloire. Parce que c'est ça qu'on veut faire quand on est sauvé, c'est d'être capable de transmettre ça puis de refléter sa gloire. Fait que c'était une façon très concrète là, de vous montrer un petit peu comment on peut réfléchir puis être capable. Après ça, le pourcentage, là, c'est très individuel puis il y aura d'autres... anciens ou prédicateurs qui pourront être plus formels sur ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est comment Jésus a catégorisé la veuve, puis comment Ananias et Saphira ont été punis. Puis il faut toujours se re-questionner, puis être capable d'enlever cette idole-là de notre vie, puis de se sentir que quand on donne, on n'a pas toujours un pincement de cœur, mais que c'est libre, puis qu'on le donne de façon régulière et constante. Donc, c'était ça pour la discipline de l'offrande. Pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, des partages, des anecdotes qu'ils voulaient partager? Je ne sais pas, il y a quelle heure. On est bonne. Luigi me dit fais-les partager. Je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être que je parle trop vite, là, ça les a assommés.
Ben, c'est intéressant. Ben, va-t-il quelque chose c'est un peu studier pour moi? Parce que depuis bien fait ans, j'avais l'envoi qui fonctionne pas bien. Puis là, j'ai envoyé une spéciale que j'ai voulu vraiment dans le studio. Ben, 150 $, c'est comme, je sais pas. Là, j'étais là, puis j'ai regardé, puis j'ai dit, tu veux être oui, puis non, en tout cas. Là, j'ai pris la décision, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu peux faire? Puis non, ben. Peut-être je vais attendre quand il va être encore
en spécial.
Moins cher. Fait que là, je m'en viens à la maison, puis je prends du AIW. Là, je mets partout, là, puis là, après ça, j'ai laissé, puis ça marche! Ah. Fait il marche une vitesse, puis là, j'ai dit, il est plus que neuf, quand même. Là, j'ai dit, ben ça marche, je n'achète pas! Puis là,
vous avez été sensible, puis vous avez
vérifié s'il y avait d'autres options. Mais il y en a un qui marche, j'ai dit, ben, ça fait moi, non, pour le moment.
Mais je pense que ça fait partie du contentement, ouais, d'être capable de voir s'il y a d'autres alternatives. Hein. Il ne faut pas dénigrer des fois le fait qu'il faut l'acheter. Hein. On n'a pas le choix, là. Hein. Des fois, ça pèse. Mais, ouais. Ok. Merci. D'autres partages?
Ça m'a fait sourire tantôt quand tu parlais de. Tu sais, que des fois, on se prive ou on empêche d'accueillir des gens chez nous parce qu'on pense que notre maison est pas assez bien ou que nos repas, nos affaires, on n'est pas assez bien. Puis je le vis vraiment, mais tu sais, j'ai un éveil là-dessus, mais mon mari m'en a déjà parlé beaucoup de fois, qui voulait inviter des gens, puis j'empêchais tout le temps parce que, c'est ça, au niveau de la. Tu sais, la maison, comment je vais. Qu'est-ce que je vais servir? Puis tu sais, le repas, puis tu sais, ça n'a vraiment pas d'importance finalement. C'est vraiment de passer du temps de qualité avec des frères et des sœurs ou des gens qu'on veut témoigner, peu importe, mais finalement, on s'arrête pour des ressources matérielles ou pour des picotiers qui valent pas la peine de se priver. Là.
C'est vrai. Par rapport à notre... Moi aussi, j'ai un grand orgueil de ménage, là. Fait que je comprends, là. Oui?
Moi, je rejoins beaucoup. Mon mari me disait, non, c'est bien, on reçoit beaucoup, tout ça. Moi, je dis, si je travaille beaucoup, je peux le temps faire le ménage. Ah, tu peux le faire, comme ça, peut-être que j'accepterais peut-être plus, mais je ne le faisais pas vraiment plus. Puis c'est vrai que c'est pas important, tout ça. Parce que quand tu es reçu avec un sourire, peu importe, tu es reçu. Même tu mangerais du beurre d'arachide avec du pain, ça serait correct aussi parce que c'est agréable. Mais ce que je veux vous partager, c'est que vous savez que mon conjoint est décédé. J'habite avec Josiane maintenant, puis c'est Josiane qui fait l'homme à beaucoup de bon niveau. Elle est plus manuelle que moi. Puis il fallait fermer la piscine, puis la première fois que tu fais ça, tu sais pas. Donc, elle me dit, maman, peut-être m'acheter un outil pour pouvoir dévisser les choses. Tu peux pas y aller, je t'ai dit la mauvaise affaire. Tout ça. Mon conjoint, je me rends compte qu'il faisait énormément de choses, j'avais jamais à faire ces choses-là. Puis, j'arrive avec un outil, mais c'était tout.
C'est pas voilà. Le bon.
On m'avait conseillé. Donc, je suis un peu sorte de pain que je n'ai jamais vu de ma vie. Puis, ça ne faisait pas parce qu'on s'en glissait. C'était vraiment pas la bonne chose. Donc, le monsieur m'avait dit si ça ne fait pas, vous nous la ramenez, puis avec la facture, on va la rembourser. Alors là, à un moment donné, on a acheté des bouchons, on a acheté toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas. Mais pour terminer, moi, mon outil ne faisait pas non plus, il fallait la retourner, mais on ne trouvait plus la facture. Vous savez combien il a vanté dernièrement? Bien, la facture là, était sous le coin de la maison par terre. Je l'ai retrouvée, Seigneur, où est-ce qu'elle est cette facture-là? Souvent dans un de mes sacs. Après avoir fait toutes mes recherches, je sors dehors, puis je regarde là, puis elle était là, la facture. Avec toutes les gros voix qu'elle avait eues, j'ai dit, Seigneur, t'es vraiment exceptionnel.
Prends soin de nous.
Oui, ouais. C'est ça.
Puis moi, je trouve que faut laisser les jugements à ceux qui jugent. Hein?
Voilà.
Tu sais, quand on parlait des gens qu'on accueille, on a peur de nous se faire juger, mais ça, ça ne nous appartient plus. Tu sais, c'est ces gens-là qui vont vivre avec leurs pensées, leurs choix, puis même s'ils verbalisent. Moi, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens verbalisent là, certaines choses à la maison. Ça ne m'appartient pas. Tu sais, c'est leur jugement, leur défi à relever, leur péché à emporter. Ce qui m'appartient, moi, c'est d'accueillir, d'être généreuse, d'avoir du bon temps, puis d'être enrichie de cette relation-là, puis de voir. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça, départager ce qui nous appartient de pas. Puis Dieu, il est à notre portée, puis prendre soin de nous dans tout ça, là. Ouais.
Dans les petits détails, moi, ça m'étape tellement dans les petits détails, à quel point il me fait des clins d'œil, d'abord.
Ouais.
Une dernière chose, je sais qu'on a fait ça, mais je m'attache beaucoup à... On a eu une enfance différente, mais je me rappelle dans mon enfance que je me rappelle encore le petit 20$ que mon père m'a donné. Chez nous, on était 5 enfants, puis mon père avait 60 PME, puis il y a eu des années bien difficiles que ma mère, quand elle recevait, elle n'était pas capable de faire manger le monde. Elle n'avait même pas de pâte en vrai, je ne sais pas. Mais il faut se rappeler d'où on vient, puis, merci Seigneur qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on est, tu sais, puis d'être généreux.
Est-ce qu'il y a toujours des motifs? Non, mais c'est vrai, il y a toujours des motifs pourquoi on fait certaines choses, puis des fois, c'est des lacunes qu'on a eues qu'on ne veut pas transmettre à nos enfants ou peu importe, là, je ne parle pas de, nécessairement toi, mais puis des fois, ces motifs-là qui sont très bons à la base nous amènent ailleurs. Fait qu'il faut souvent se re-questionner, puis c'est ça, pas travailler sur les erreurs des autres ou les problèmes des autres, puis voir ce que nous, on est capable de travailler. Puis il y a des temps de sécheresse, hein, où que c'est correct, on est comme ça, mais l'important, c'est de garder ça en tête.
Oui, d'être reconnaissant envers Dieu, même toutes les périodes qu'on passe.
Ouais.
C'est dur. Mm-hmm.
Puis Dieu fait beaucoup avec peu, fait qu'il ne faut jamais sous-estimer ce qui peut se passer avec ce qu'on a. Des fois, il n'y a pas de rentrée d'argent prévu, puis il y a des choses qui arrivent, puis des fois, on a un superflu, puis il faut se re-questionner où on le met, puis qu'est-ce qu'on fait. Bien, merci pour vos partages. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire une prière avant qu'on quitte. Pour la matinée. Je vais prier. Ah, oui, merci.
Eh bien, Père, on vient devant toi, nombreuses. On veut être reconnaissante. Je veux être reconnaissante envers toi. Premièrement, du grand amour que tu nous as donné pour ton fils Jésus. Que tu sois venu nous chercher là où nous étions dans le contexte que nous vivions à ce moment-là. Et puis, Seigneur, dans le sujet qu'on parle aujourd'hui, moi aussi, Seigneur, des choses encore à prendre après plusieurs années à t'appartenir, d'offrir, de s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur dans ce qu'on a présentement, de l'offrir, de le partager. Merci qu'on soit ici ce matin et je te prie de prendre soin de nous. De continuer à prendre soin de nous, de chacun, de où on est. Bénis cette journée. qu'elle soit pas, elle s'arrête pas ici, que ça puisse continuer. Qu'on puisse continuer à partager cet amour que tu as mis en nous. Qu'elle puisse se concrétiser par des actions. Prends soin de ton Église, Père. Prends soin de nous. Au nom de ton Fils Jésus.
Amen. Bonne matinée.
Merci. Merci.